tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Merci de nous avoir choisis en ce début d'été. Je suis Sabrina Caron et je suis en compagnie de René Distil. Bonjour René.
Salut Sabrina, comment ça va?
Ça va très bien. Les travaux avancent bien cet été. Puis on a développé des nouveaux projets aussi, fait que c'est super le fun de travailler sur des nouveaux projets. On apprend beaucoup, fait que c'est motivant. Toi, ça va à la ferme avec tes filles?
Oui, ça va, ça va. Les semences se sont éternisées. Après ça, les foins, ben, on a attendu un peu parce que c'était trop jeune. Après ça, ça a tombé peut-être un petit peu trop mature, mais mon fieldman est bien content. Il dit, c'est ça que je voulais, c'est correct. Bon, fait que les rendements étaient là. Ça a bien été. Ça a, comme on dit, ça a roulé.
Oui. Au travers de tout ça, il faut prendre le temps de prendre des vacances aussi. Ça va nous faire du bien. Pour les prochains épisodes, on a décidé de vous faire découvrir des entretiens réalisés dans le cadre de la série Balado Pro Action des producteurs laitiers du Canada. C'est intitulé Chemin vers l'excellence à la ferme.
Cette série aborde une variété de sujets importants pour les producteurs laitiers canadiens. Dans cet épisode, l'épidémiologiste vétérinaire José-Denis Robichaud a une conversation passionnante avec le docteur Simon Dufour.
Le docteur Dufour est professeur et chercheur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il occupe également le poste de directeur scientifique du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait.
Simon Dufour a une vaste expérience sur le terrain et dans la recherche. Ensemble, ils vont se plonger dans le thème de la biosécurité sur les fermes laitières et examiner le rôle crucial des producteurs laitiers pour maintenir la santé sanitaire de notre industrie.
Ils vont discuter des mesures de biosécurité en place depuis des générations dans les fermes laitières, mais aussi des nouvelles pratiques qui peuvent prévenir l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
Ils aborderont également les défis et les opportunités liées à l'amélioration continue des standards de biosécurité.
Alors, installez-vous confortablement au volant peut-être de votre tracteur et préparez-vous à une discussion enrichissante avec José-Denis Robichaud et Simon Dufour. Bonne écoute!
Bonjour Simon et merci de prendre le temps aujourd'hui de te joindre à nous pour parler de biosécurité. Je pense que ton implication dans l'industrie laitière est bien connue, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers, peux-tu m'en dire un peu plus sur ton parcours et peut-être un peu plus en détail sur ton expérience et implication en matière de biosécurité dans l'industrie laitière?
Salut José. Ben, merci premièrement de me rencontrer. C'est le fun de pouvoir te parler. Moi, en fait, j'ai travaillé en pratique vétérinaire là, avec les bovins laitiers pendant une dizaine d'années au Québec et en Colombie-Britannique. Donc, j'ai été à l'autre bout de la vache pendant un certain temps. On sait de quel bout on parle. Éventuellement, j'ai décidé de suivre une formation en recherche en épidémiologie ou en épi-informatique, en fait. Puis, je me suis même intéressé beaucoup plus à ce moment-là aux maladies des vaches laitières, aux maladies infectieuses, entre autres, pas mal. Puis, je fais beaucoup de recherches sur la mammite, qui est un de mes points que je couvre beaucoup, comme tu le disais. Mais aussi, je fais beaucoup de recherches, en fait, sur la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses. J'ai travaillé plus récemment sur la boiterie, donc qui est un italien ou dermatite digitée, dépendamment de quelle époque on est. Salmonella Dublin aussi, qui est une problématique quand même importante là, présentement chez les vaches laitières et où il y a beaucoup de composantes de biosécurité qui sont importantes dans ce cas-là. On est en train de mettre sur pied aussi une chaire de recherche en biosécurité pour les vaches laitières. Donc, beaucoup de nos futurs travaux vont encore une fois porter là-dessus.
Beaucoup d'implications, en effet. Biosécurité, depuis les dernières années, est utilisée à beaucoup de choses, je dirais, et probablement encore plus maintenant qu'on est en période de pandémie. Puis bien que la biosécurité, dans certains cas, veut dire quarantaine ou combinaison étanche d'astronautes, je pense que c'est un peu différent pour les fermes laitières canadiennes.
Oui, en fait, c'est effectivement, sur les fermes laitières, c'est beaucoup plus simple que la combinaison spatiale pour les cas d'Ebola ou de COVID. Puis en fait, la biosécurité sur les fermes laitières sont des choses très simples. Puis le mot semble nouveau, mais c'est des choses qu'on fait depuis des années et des années, en fait. Par exemple, pour la mammite, ça fait longtemps que les producteurs laitiers vont faire du diagnostic, ils vont prendre des échantillons de lait quand ils achètent un animal ou sur les animaux aussi qu'ils ont à la ferme déjà, pour s'assurer que ces animaux-là ne viennent pas contaminer le reste du cheptel. Donc, ils vont faire aussi des fois une ségrégation des animaux qui sont contagieux, qui ont des bactéries qui sont contagieuses, ou établir un ordre de traite ou des choses comme ça, ou encore, ben, ils vont peut-être les mettre un peu plus sur la liste de réforme, leurs animaux problématiques. Et tout ça, c'en est de la biosécurité. On le fait déjà. Les producteurs laitiers du Canada le font déjà, puis leurs parents le faisaient déjà, en fait, avant. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt de le formaliser un peu plus que ce qu'on faisait avant. En fait, depuis quelques années, avec ProAction, là, c'est devenu plus formel. On doit faire de la paperasse aussi en lien avec la biosécurité. Puis on a des évaluations aussi annuelles des différents risques, s'assurer qu'il n'y a pas des trous dans notre programme de biosécurité. Donc, tout ça peut sembler nouveau pour beaucoup de producteurs, mais à la base, c'était des choses qu'ils faisaient déjà sur leur ferme. Puis c'est beaucoup essayer de savoir quel animal est potentiellement malade et prévenir la transmission dans le troupeau, ou encore cibler avant d'introduire un animal lesquels pourraient être problématiques et ne pas les introduire dans le troupeau, ceux-là. Évidemment, bien, il y a tous les aspects aussi de contrôle des visiteurs, d'échange d'équipement aussi entre producteurs, qui sont des choses auxquelles il faut penser et auxquelles on ne pensait peut-être pas tant que ça il y a quelques années, là. Donc ça, ça peut sembler un peu plus nouveau. Mais donc, on est loin de la combinaison étanche. On peut très bien faire avec des bottes de caoutchouc puis quelques vêtements de survêtements de travail. Ça fait bien le travail pour l'instant.
Et comme tu le dis, ça a un impact quand même assez important sur la santé à l'intérieur du troupeau. Mais peux-tu développer peut-être aussi sur l'impact que ça a sur notre industrie en général, comme l'industrie laitière canadienne?
Oui, ben oui, c'est certain. On peut ensemble protéger le cheptel canadien de l'introduction de certaines maladies. Si tout le monde fait sa part, ben on peut contrôler les nouvelles maladies. Bon, c'est un exemple qui va peut-être te faire sourire, mais moi, j'ai été formé en 1998 à la Faculté de médecine vétérinaire. Oui, c'était dans le 20e siècle. Puis, à l'époque, nos professeurs nous parlaient d'une nouvelle maladie qui s'appelait le piétin italien. Puis, ils nous montraient des photos de chercheurs européens, parce qu'eux, on n'avait pas de photos parce qu'on n'en voyait pas encore ici. Donc, moi, j'ai appris en théorie ce qu'était le piétin italien, qu'on appelle la dermatite digitée maintenant. Maintenant, de nos jours, de la dermatite digitée, il y en a partout dans les troupeaux canadiens. J'ai plus besoin d'emprunter des photos à qui que ce soit pour pouvoir montrer ça à mes étudiants. En fait, on a fait une étude récemment, puis c'était 85% des stabulations libres où il y a de la dermatite digitée. Et en général, si on va dans un troupeau où il y a de la dermatite digitée, on va avoir à peu près une vache sur deux qui a un problème au moment où on va évaluer le troupeau. Donc, c'est tellement généralisé maintenant. Mais en fait, si à l'époque, on avait appliqué des mesures de biosécurité plus strictes, mais possiblement qu'on n'aurait jamais eu ce genre de problème-là. Et puis, la boiterie, ça coûte des millions de dollars chaque année aux producteurs laitiers au Canada. C'est aussi très problématique pour l'image du lait. Une vache qui boite, c'est pas joli, hein? Puis les consommateurs, c'est pas toutes les maladies qui sont capables d'évaluer visuellement, mais une vache qui boite, ça, ils remarquent ça, puis ça vient confronter un peu leur valeur après ça par rapport aux produits, à ce qu'on fait. Donc, il y a une protection de vos animaux à l'intérieur de votre ferme, mais il y a aussi quand même vraiment une protection de l'industrie laitière qui peut être supporté avec des mesures de biosécurité plus strictes.
Je ne veux pas, l'image de l'industrie demeure très importante. Puis, comme tu dis, la biosécurité peut avoir un bon impact là-dessus. Selon toi, ça serait quoi les principaux éléments qui peuvent aider les producteurs pour le contrôle et la prévention de la mammite dans leurs troupeaux qui sont en lien, dans le fond, avec la biosécurité?
Oui, mais si on voulait cibler peut-être quelques pratiques là, clés, là, les plus importantes. Il faut probablement penser à la désinfection des trayons avant et après la traite. Puis ça, c'est clairement de la biosécurité parce qu'on essaie de limiter la propagation des maladies entre les animaux en faisant ça. Et aussi de l'environnement à l'animal. En fait, la désinfection pré-traite, c'est plutôt pour les bactéries qui viennent de l'environnement. Et la désinfection post-traite, c'est plutôt pour les bactéries contagieuses qu'on peut transmettre sans faire exprès avec la machine à traire. Donc, ça, c'est probablement parmi les facteurs les plus importants. Mais les bonnes nouvelles à ce sujet-là, c'est que la plupart des producteurs canadiens appliquent la désinfection post-traite et beaucoup appliquent la désinfection pré-traite des trayons aussi. Le hic, par contre, après ça, quand on va sur les fermes et qu'on regarde, c'est que c'est pas toujours bien fait ou bien fait de manière constante. Hein. C'est vraiment tout bien couvrir le trayon au complet avec un produit qui est approuvé aussi pour cette utilisation-là, donc qui peut vraiment détruire les germes qu'on veut éviter de transmettre. Et donc, désinfection des trayons, ça, c'est quand même un aspect très important. Les procédures de traite aussi, qu'elles soient le plus optimales possible, parce que ce qu'en fait, c'est qu'on veut que le bout des trayons soit en super santé, vraiment beau, pas de cale qui se développe au bout des trayons, pas de trayons inversés non plus, parce que c'est la première barrière de défense contre les infections. Mais en fait, la biosécurité aussi, c'est s'assurer que nos animaux ont un système immunitaire, un système de défense qui va être à même de bien réagir quand on introduit aussi une nouvelle bactérie dans leur environnement. Donc, ça, c'en est une manière si anatomiquement le trayon est en super bon état, ça va bien aller de ce côté-là. Puis évidemment, si on regarde, encore une fois, dans les aspects biosécurité, les animaux qui sont porteurs de certaines infections qui sont très chroniques, éventuellement, il faut les réformer. Donc, on passe à des vaches qui ont des mammites contagieuses, à staphoreuse ou des choses comme ça. Encore une fois, c'est une biosécurité interne. On essaye de, à l'intérieur de notre ferme, réduire ces risques-là potentiels en se débarrassant de ces animaux-là. Puis donc, les vaches qui, elles, sont saines sont de moins en moins à risque de devenir infectées, finalement. Donc, des fois, il y a des aspects qui sont de la biosécurité externe. On veut prévenir la maladie d'entrer dans le troupeau. Ça serait le cas, par exemple, si on faisait un test de lait pour la mammite, pour une vache qu'on achète. Puis dans d'autres cas aussi, c'est une biosécurité interne. On sait que la maladie est déjà présente dans le troupeau, mais on veut limiter la propagation. Puis dans ce cas-là, ce que je mentionnais au niveau désinfection des trayons, procédure de traite, réforme des vaches qui sont contagieuses puis chroniques, c'est cet aspect-là qu'on vient toucher.
Donc, la biosécurité, finalement, ça vient aider à diminuer la mammite dans le troupeau. Oui. Puis tout ce que tu as nommé, c'est toutes des choses déjà bien connues, je pense, de la plupart de nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un secret?
Là, ça va rester entre toi et moi, tout ça, j'imagine.
Oui, c'est un secret.
c'est certain, je pense qu'il... la plupart des producteurs laitiers, leurs vétérinaires, les connaissent, ces choses-là. Ce qui est difficile, c'est d'être constant dans son application. C'est jour après jour, traite après traite. Ne pas se relâcher, rester vigilant, puis continuer à appliquer ces mesures-là et essayer de toujours bien les faire. C'est normal, hein, il y a des journées où on a d'autres challenges avec une chaîne d'écureuil qui peut briser, puis d'autres choses. On a un budget de 24 heures aussi dans une journée. Mais il faut essayer de rester constant. Les fermes deviennent de plus en plus grandes aussi. Il y a des employés, c'est de plus en plus fréquent. Il faut que les employés aussi soient bien éduqués à faire ces choses-là. Puis qu'il faut qu'ils soient constants aussi. Puis il faut essayer de penser aussi des fois à certaines des zones qui sont un peu dans notre angle mort, puis qu'on voit pas nécessairement. Puis par exemple, quand on parle de la mammite. Les vaches taries tombent dans l'angle mort tout de suite parce que ces vaches-là produisent pas de lait. Et puis, des fois, c'est dans des conditions qui sont pas toujours optimales non plus. Alors qu'on sait que c'est une des périodes où le risque de s'infecter est le plus grand durant le tarissement. Donc, il faut penser à ces zones-là auxquelles on pense pas nécessairement tout de suite rapidement, puis essayer de les aborder aussi, puis s'assurer qu'on maintient les différentes zones de la ferme de manière égale, les différentes zones de la production laitière, en fait.
Je pense que c'est un secret qui vaut la peine d'être partagé.
On va essayer
de disséminer ça. Je pense que ça vaut la peine. tu nous as parlé de plusieurs éléments, puis tu es beaucoup impliqué dans le réseau Mammit, évidemment. Est-ce que c'est des choses qui sont sous le radar du groupe de recherche?
Oui, ben on a plusieurs choses, en fait, que nous, on voit comme des choses d'avenir, en fait, sur lesquelles on travaille. En fait, le réseau Mammit, bon an, mal an, c'est une dizaine de projets menés par différents chercheurs. Donc, moi, je suis juste là pour faciliter les choses. C'est pas moi, évidemment, qui fait tout ça. Mais un des plus gros défis, nous, qu'on entrevoit là, pour le 21e siècle, maintenant qu'on y est, c'est de faire mieux du côté de la santé de la glande mammaire, mais avec moins, puis avec moins d'antibiotiques en général. C'est vraiment l'aspect qu'on doit cibler maintenant. On le sait, l'utilisation des antibiotiques est de plus en plus scrutée. On doit réduire le plus possible l'utilisation. Aussi utiliser les bons antibiotiques sur les bons animaux. Donc, ça demande différents développements, mais on sait que c'est possible de le faire. Par exemple, on travaille sur des vaccins présentement qui ciblent pas seulement la mammite, qui ciblent en fait différentes maladies des vaches laitières. Ça, c'est une manière finalement de prévenir les infections et donc d'utiliser moins d'antibiotiques, mais en maintenant quand même la santé de la glande mammaire. On a aussi des nouvelles approches sur lesquelles on travaille pour essayer de stimuler le système immunitaire de la vache, qui ne sont pas nécessairement des vaccins, mais que, par exemple, on réussirait à avoir plus de cellules de défense près du bout du treillon où on veut les avoir. Ce qui fait que quand une bactérie se présente, bien, elle serait pas à même de créer l'infection. Elle serait arrêtée très, très rapidement avant le début de l'infection. On a d'autres exemples au niveau du tarissement, où est-ce qu'on est en train de travailler plutôt sur les tests diagnostiques pour dire, bien, en fait, quelle vache et quel quartier devrait être traité avec un antibiotique en arrivant au tarissement. Puis, on aurait des résultats présentement où on est rendu à peu près à 95% des animaux qui ne seraient pas traités avec un antibiotique. Donc, seulement un 5% d'utilisation des antibiotiques de ce qu'on avait avant. Et quand même avec des résultats au niveau de la santé de la glande mammaire dans la lactation suivante, au niveau de la production laitière, tous les différents aspects, la réforme des vaches et des traitements même des cliniques dans la lactation suivante, où on perd rien. On n'a fait aucune perte au niveau santé des animaux, mais on utilise à peu près 5% de ce qu'on utilisait avant. Donc, wow. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va, essayer d'explorer toutes les possibilités pour maintenir ou améliorer la santé de la glande mammaire, principalement dans ce cas-ci, mais en utilisant moins d'antibiotiques, en utilisant d'autres avenues. On dirait que pendant longtemps, on n'avait pas eu à se poser la question, hein, les antibiotiques, on les utilisait. Et puis là, maintenant qu'on a à se poser la question, bien, toutes sortes de chercheurs, de vétérinaires, de producteurs ont eu des idées, ont été très créatifs, puis là, on trouve toutes sortes de nouvelles avenues, en fait. Donc, c'est pas inquiétant pour l'avenir de ce côté-là.
J'imagine que les mesures de biosécurité générale vont aussi dans ce sens-là de diminuer la pression d'infection puis diminuer l'utilisation des antibiotiques.
Oui, moins les animaux sont en contact avec des bactéries, soit à l'intérieur de la ferme ou qui proviendraient de l'extérieur de la ferme, moins on a de traitement à faire par la suite, c'est clair.
Je pense que la biosécurité, c'est bien accepté. Il y a des études qui ont montré que les producteurs trouvent que c'est important, la biosécurité. Ce que j'ai l'impression qui arrive souvent, c'est l'adoption ou la constance, comme tu mentionnais plus tôt. Comme industrie, l'industrie laitière a été quand même épargnée en termes de maladies contagieuses, si on se compare à l'industrie porcine ou aviaire, qui ont eu des maladies très importantes, qui ont un peu imposer des mesures de biosécurité drastiques. Est-ce que, comme industrie, est-ce que on devrait s'inquiéter de ces maladies dévastatrices comme dans le porc et la volaille? Puis est-ce que on devrait adopter des mesures un peu semblables aux leurs pour prévenir l'introduction de ce genre de maladies-là?
C'est sûr, notre système de production il est différent de ce qu'on voit en porcin ou aviaire. Il y a beaucoup d'animaux qui roulent régulièrement, alors que nous, ben, on a un élevage souvent où 90-95% des animaux proviennent de l'élevage même, en fait. Puis il y a des animaux qui quittent l'élevage, mais il n'y en a pas tellement qui entrent dans l'élevage. Par contre, il y a des visiteurs aussi de la même manière que dans les autres types de production. Puis il y a d'autres manières aussi quand même de transmettre les infections. On est dû à cette manière-là de faire, à notre système de production, on est peut-être un peu moins à risque qu'aviaire et porcin, mais ça me fait toujours un peu sourire quand les gens disent « ben nous, dans le laitier, on n'a jamais rien eu ». Je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est à cause qu'on les a oubliés. On s'en est pas rendu compte. On a eu la dermatite digitée. Oui, on a eu la dermatite digitée et puis on y pense plus parce que c'est pas une maladie exotique. Maintenant, c'est une maladie qui fait partie de notre vie. Mais en fait, on l'avait pas avant. Donc, puis ça, c'est quand même, ça a frappé fort, ça a frappé beaucoup plus fort que certaines choses qu'ils ont eues du côté porcin ou aviaire qui ont été là pendant un an ou deux, puis qu'après ça, ils n'en ont plus jamais entendu parler. Nous, on est pris avec, là. C'est la même chose avec certains types de bactéries de la mamite aussi, quoique ça s'est développé beaucoup plus lentement dans le temps que, par exemple, la dermatite digitée. Donc, en fait, c'est pas vrai qu'on n'a jamais rien eu. On a eu des choses, puis quand même assez importantes. Dans les dernières années, on en a vu d'autres petits trucs aussi commencer à poindre avec Salmonella Dublin, dont je parlais au début, qui n'était pas quelque chose qu'on soupçonnait tant que ça. Puis, il y a d'autres possibilités parce qu'on a quand même des contacts assez étroits avec les États-Unis, dépendamment de nos possibilités de traverser la frontière. Ces temps-ci, c'est un peu plus limité. Mais donc, on n'est pas à l'abri. Notre système, je pense, de production fait que ça se transmet moins rapidement. C'est pas autant un feu de poudre que ce qu'on peut voir, que feu de paille, je veux dire, que ce qu'on peut voir dans les autres types de production. Mais on n'est vraiment pas à l'abri. Puis c'est important que nous aussi, on ait des barrières contre ce genre de trucs-là pour limiter la propagation.
Puis dans ce qui n'est pas vraiment adopté, qui pourrait avoir un impact sur l'introduction de nouvelles maladies comme ça, est-ce qu'il y en a qui viennent en tête, puis à quel point ça serait efficace, disons, si on avait eu ces mesures-là en place quand le piétin est rentré, est-ce que ça aurait fonctionné?
Bien, il y a beaucoup de choses qui c'est du gros bon sens. Je pense qu'une des premières choses, puis la plupart des producteurs vétérinaires sont au courant, l'introduction de nouveaux animaux, hein, c'est comme le cheval de Troie. Mais c'est les bactéries qui sont à l'intérieur de la vache. C'est la vache de Troie, en fait. Lorsqu'on introduit des nouveaux animaux, il y a toujours un risque, en fait, d'introduire une maladie. Donc, il y a certains tests diagnostiques qu'on peut faire, puis ça, les vétérinaires et les producteurs peuvent les aiguiller. C'est important quand même de savoir un peu d'où nos animaux viennent, de vérifier s'ils sont porteurs de certaines maladies qu'on n'a pas présentement dans le troupeau. Et si c'est possible, en fait, parce que beaucoup de producteurs le font aussi, de fonctionner, en fait, simplement avec leur propre élevage sans, en fait, acheter d'animaux. Donc, c'est certain, il faut penser à l'introduction de nouveaux animaux. À chaque fois, c'est un risque potentiel. Les visiteurs aussi. Il faut qu'il y ait un certain contrôle de ce côté-là. On sait, il y a certaines exigences minimales qu'on devrait avoir quand quelqu'un vient à la ferme. Mais le plus possible, les personnes ne devraient pas aller à l'intérieur de la ferme si c'est pas nécessaire. Si c'est juste pour une discussion avec un vendeur ou un truc comme ça, ça peut très bien se faire à l'extérieur de la ferme. Lorsque quelqu'un doit absolument aller à l'intérieur de la ferme, désinfection des bottes, changement des survêtements de travail, ces choses-là, lavage des mains, c'est des choses quand même assez de base qui étaient déjà bien mise en pratique par certains types de visiteurs, peut-être moins par d'autres, mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus généralisé. Il n'y a pas beaucoup de serrures sur les portes non plus, dans les fermes laitières. Puis, il y a beaucoup de portes sur une ferme laitière en général. On peut toujours On peut toujours rentrer d'une manière ou de l'autre. C'est assez surprenant après ça quand on va vers un poulailler ou une porcherie, puis qu'il y a une porte barrée avec une serrure à numéro. Et donc, comme visiteur, il faut absolument que le propriétaire ou un employé vienne nous ouvrir pour qu'on puisse avoir accès au bâtiment. Donc, ça, c'est peut-être une philosophie, mais c'est des choses qui devraient éventuellement venir pour contrôler un peu plus les visiteurs. Il ne faut pas entrer là comme dans une grange. Mais sinon, une chose aussi, des fois, qu'on oublie, puis j'ai quand même plusieurs clients qui, des fois, ça a été le problème pour introduire certaines maladies, Salmonella Dublin, entre autres, mais l'échange d'équipement en ferme. Tout l'équipement, entre autres, qui sert à manipuler du fumier ou des choses comme ça, ça peut être très problématique pour l'introduction de bactéries. Chez la vache laitière, il y a beaucoup des maladies qui nous intéressent, qui sont transmises par le fumier ou les fesses, en fait. Donc, à partir du moment où quelqu'un utilise un tracteur pour aller nettoyer son étable, le prêter à quelqu'un d'autre pour aller nettoyer l'autre étable, c'est probablement pas une bonne idée. Puis les processus de nettoyage puis de désinfection de ces trucs-là sont probablement vont rarement être suffisants pour en fait justifier de passer de l'équipement d'une place à l'autre. Là. On a certains parasites, par exemple, comme la cryptosporidiose, que ça prend pratiquement un lance-flamme pour s'en débarrasser. Donc, on ne peut pas faire grand-chose pour désinfecter une pelle de tracteur pour ce genre de parasites-là.
Puis c'est ça, c'est que ça dépend beaucoup de la ferme. Je pense que chaque action que tu décris va changer d'une ferme à l'autre. Puis j'ai l'impression que le programme ProAction, qui est maintenant déployé à l'échelle nationale, essaie d'aller identifier ces facteurs de risque précis à chaque ferme. Puis je pense que ProAction est peut-être la cause parfois de certaines frustrations. Tu l'as mentionné plus tôt, la tenue de dossier, les procédures normalisées. Les évaluations de risque répétées, c'est pas une fois puis c'est fini. Pourquoi c'est si important de faire ça, de prendre ce temps puis cet investissement-là pour aller chercher des procédures normalisées, des évaluations de risque?
Ben, c'est certain, pour les producteurs laitiers, comme tu disais, une des premières réactions, c'est ben encore de la paperasse. Puis à chaque fois qu'on passe du temps à faire de la paperasse, on passe moins de temps dans l'étable, dans les champs, puis dans la comptabilité de l'entreprise à faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes que cette paperasse-là qu'on ne faisait pas avant, puis tout semblait bien fonctionner. Hein. Mais en fait, c'est important de voir aussi que nos fermes, la structure de nos fermes change. Comme je le disais tout à l'heure, on a des fermes de plus en plus grandes, des employés. Cette mise sur papier-là de nos procédures, voici ce à quoi on s'attend avec les visiteurs, voici comment on doit gérer tel truc qui pourrait se passer à la ferme. C'est important de le coucher sur papier pour simplement réaliser que oui, on a quelque chose qu'on veut faire, informer les employés qu'ils aient des règles à suivre puis qu'ils sont capables de les suivre, les autres membres de la famille, les autres personnes qui travaillent sur la ferme. De les avoir sur papier aussi, ça permet avec votre vétérinaire de demander, s'assurer que il n'y a pas de trous, hein. il n'y a pas des espaces qui ont été complètement libres, puis qu'on a complètement ignoré. Par exemple, si on n'achète aucun animal, on travaille très fort sur l'introduction de nouveaux animaux pour prévenir ce problème-là. Mais les visiteurs rentrent et sortent comme ils veulent. Ben, en fait, peut-être qu'on pourrait adresser aussi ce truc-là. S'il n'y a rien sur papier, ça devient très difficile pour les intervenants qui peuvent appuyer les producteurs dans la mise en place des mesures de biosécurité, de savoir, en fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Puis, en plus de le mettre sur papier, puis d'y retourner aussi à l'occasion, c'est presque un engagement envers soi-même, hein, quand on dit, ben, je vais faire ça. Puis là, après ça, ben, je le fais pendant un mois, je me relâche pendant 2-3 mois, j'ai revérifié ça avec mon vétérinaire. Je lui ai dit, puis comment ça va tel truc? Ah ouais, c'est vrai que j'avais écrit ça. Hein? Faudrait peut-être que...
C'est bon pour la constance.
Faudrait peut-être que je le fasse finalement. Il y a quand même cet aspect-là. C'est sûr aussi, tous les aspects au niveau de la tenue de dossier pour les maladies, tout ça, c'est important aussi parce que si on note pas les maladies de nos animaux, les réactions vont être beaucoup trop tardives. En fait, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour qu'une infection se répande dans un troupeau avant que finalement on se rende compte du problème parce qu'il n'y a pas une tenue de dossier, il n'y a pas de suivi rigoureux de ce côté-là. Puis ça, c'est problématique parce qu'on le sait en cas d'épidémie, puis je pense que l'exemple du COVID a été vraiment intéressant pour beaucoup de gens. En cas d'épidémie, c'est la réaction initiale qui doit être très rapide. Si on peut rapidement circonscrire une éclosion puis empêcher les gens d'aller faire la fête avec les autres, donc empêcher les vaches d'aller faire la fête avec les autres, bien, on peut arrêter une éclosion très rapidement puis prévenir une épidémie. Si on le fait pas, bien, on échappe à la situation si on le fait pas rapidement. Donc, la tenue de dossier est importante pour ça. Important aussi, comme je le disais, de bien coucher ce qu'on est supposé faire sur papier pour qu'on puisse identifier est-ce qu'il y a des trous dans le programme de biosécurité où on couvre bien les différents aspects. Mais encore une fois, la paperasse, c'est important, mais la priorité, c'est d'appliquer les mesures.
Hein. Puis, c'est le faire.
C'est ça, la priorité, c'est pas la paperasse. Il faut, si un client me dit « Simon, j'ai soit le temps de faire toutes les mesures que tu me suggères, soit je les écris, mais je vais les faire moins constamment », ben je vais dire ben, « fais-les ». C'est ça qui est le plus important. Alors, priorité, c'est d'appliquer les mesures puis d'être assez d'être constant dans le temps aussi avec ça.
Ben, merci beaucoup, Simon. Ça a été une rencontre très intéressante, remplie d'informations.
Et merci, José.
Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut, Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète?
À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
Ah, c'est comme le cercle de la vie.
Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi?
Je suis partant.
C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux traites qui mettait en vedette José-Denis Robichaud et son invité Simon Dufour dans le cadre de la série Balado Pro Action des producteurs laitiers du Canada.
Je pense que leurs expertises et leurs précieux conseils vont être utiles à beaucoup de nous auditeurs.
J'espère que vous avez trouvé cette discussion aussi informative que passionnante. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a plein d'informations précieuses pour prendre des décisions éclairées sur les soins aux animaux et pour améliorer nos pratiques sur la ferme.
Pour plus de détails ou de ressources supplémentaires, n'hésitez pas à visiter les sites des producteurs laitiers du Canada à l'adresse www.producteurslaitiersducanada.ca.
Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien manquer et partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour toute l'équipe d'Entre deux traites.
Ce balado est une réalisation de Bruce Sargent et une production de Carl Bélanger. Un grand merci également à Stephen Roach pour la production de l'entretien. Un grand merci à José-Denis Robichaud et à Simon Dufour pour leurs précieux conseils.
La série Balado Pro Action est une initiative des producteurs laitiers du Canada et bénéficie d'un soutien partiel du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale fédérale, provinciale et territoriale.
Encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Entre deux traites. Bonne journée et à bientôt pour un nouveau balado.